Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir. On est ensemble jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes. Et à 19h20, le grand débat. Ce soir, on va tout vous dire des annonces de Jean Castex sur le front de la lutte anti-Covid. La stratégie vaccinale est-elle la bonne? Est-ce la faute uniquement à la lourdeur de la bureaucratie? Comme on l'entend beaucoup, on en parlera évidemment avec nos invités nombreux ce soir. Et nous verrons aussi comment les élus veulent prendre les choses en main. Voilà pour le programme. D'abord, le journal sur ces annonces de Jean Castex précisément avec Isabelle Millet. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois.
Pas de réouverture donc pour les bars et les restaurants avant mi-février au plus tôt. La situation sanitaire reste fragile. Le gouvernement ne peut pas se permettre de lâcher la bride.
Il envisage même d'augmenter le nombre de départements sous couvre-feu à partir de 18h.
Concernant la vaccination, oui, tout le monde pourra se faire vacciner, mais priorité aux personnes âgées et fragiles. Puis le délai pour l'injection de la deuxième dose peut par ailleurs être rallongé à 6 semaines.
On vous dit tout dans un instant sur cette conférence de presse de Jean Castex et d'Olivier Véran.
À la une également, retour sur les événements de la nuit dernière au Capitole. Washington encore sous le choc, nous dira la correspondante d'Europe 1.
Didier François, lui, nous dira que ces images laisseront des traces aux yeux du monde, celles d'un pays fragilisé.
La sortie aujourd'hui du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, pas seulement un document dans lequel elle accuse son beau-père Olivier Duhamel, mais avant tout un témoignage puissant sur les rouages de l'inceste et de la culpabilité. Et puis le Vendée Globe, il engloutit les miles à vitesse grand V. Yannick Bestaven creuse son avance en tête.
Un coup d'œil au temps avec la météo d'Anissa qui nous annonce des gelées, du verglas, mais un petit peu de soleil pour les débuts de journée.
Oui, effectivement, demain, on aura beaucoup de brouillard sur une grande partie de la France. Demain, Julien, ces brouillards seront givrants à cause des températures négatives. Mais l'après-midi, vous le disiez, le soleil sera de retour. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on n'est pas encore sorti d'affaire. Au contraire, Jean Castex confirme ce soir que la situation sanitaire reste préoccupante.
La situation sanitaire de notre pays n'est pas revenue à la normale. Elle est même devenue plus fragile au cours des dernières semaines. Même si le virus circule légèrement moins en France que chez la plupart de nos voisins, le niveau des contaminations dans notre pays reste élevé. Il a même tendance à progresser depuis la mi-décembre. Nous sommes aujourd'hui un peu au-dessus des 15 000 cas quotidiens, soit 3 fois plus que l'objectif, vous vous en souvenez, de 5 000 cas par jour que nous nous étions fixés. Il n'est donc pas question que nous baissions la garde dans les semaines à venir. Nous devons non seulement maintenir les mesures en vigueur visant à freiner la circulation du virus, mais être prêt, je le dis, à les renforcer dès l'instant où cela s'avérerait nécessaire en fonction de l'évolution des prochains jours et des prochaines semaines.
Bonsoir Anne Le Gall.
Bonsoir.
Face à cette situation fragile, quelles sont les décisions annoncées ce soir?
Eh bien, le statu quo, les restaurants resteront fermés à minima jusqu'à mi-février. Pour la culture, aucune évolution pour l'instant. Un point sera fait le 20 janvier prochain pour voir s'il est possible d'envisager une ouverture à partir de début février. Même chose pour le secteur sportif, pour les stations de ski. Pas de remontée mécanique tout de suite. C'est prématuré de prendre des décisions. Le couvre-feu est aussi maintenu jusqu'au 20 janvier. Un ouvre-point sera fait d'ici demain soir pour voir s'il faut rallonger la liste des départements soumis à un couvre-feu dès 18h. Et selon l'impact du variant et celui des fêtes de fin d'année, eh bien, des mesures supplémentaires pourraient être prises si besoin au niveau national.
Et puis il y a beaucoup d'attentes également autour de la stratégie vaccinale. Alors est-ce qu'on va accélérer le tempo?
C'est déjà le cas. 45 000 Français ont été vaccinés, 25 000 rien qu'aujourd'hui. Et l'idée, c'est de vacciner le plus vite possible les personnes âgées et les Français qui souffrent de pathologies chroniques. Ça fait 15 millions de personnes. Le moment est venu aussi d'élargir la vaccination aux Français de plus de 75 ans. À partir du 18 janvier, ceux qui le souhaitent pourront prendre rendez-vous par téléphone ou sur Internet. D'ici fin janvier, 1 million de personnes devraient être vaccinées, a promis Jean Castex. Le ministre de la Santé a rappelé de son côté que le vaccin est sûr, qu'il y a très peu de réactions graves. Un cas pour 100 000 environ, et cela arrive uniquement ou quasiment que chez des personnes très allergiques.
Merci beaucoup Anne Le Gall du service Société d'Europe 1. Olivier Véran qui a par ailleurs confirmé que des investigations sont en cours autour de deux clusters probables d'infection par la variante britannique du coronavirus.
Nous voulons éviter à tout prix la diffusion de ce variant en France. À ce jour, nous avons identifié 19 cas en circulation sur le territoire national, dont 2 dans le cadre de clusters dits à risque, 1 en Île-de-France et 1 en Bretagne. Nous attendons clairement à en identifier davantage. Tous les laboratoires sont mobilisés pour traquer le variant partout. Ce jeudi et demain, tous les tests PCR douteux, c'est-à-dire pouvant suggérer qu'il s'agit d'un cas de variant anglais, seront analysés sur nos plateformes permettant de dénombrer le nombre précis de cas de variants à date sur le territoire national pour la journée donc d'aujourd'hui et de demain.
Voilà pour ces précisions du ministre de la Santé, Olivier Véran.
Et on reparlera très largement de la stratégie vaccinale et des annonces de Jean Castex dans le débat du Club des Idées dans une petite vingtaine de minutes maintenant. 19h04, pendant quelques heures la nuit dernière, la démocratie américaine s'est retrouvée au bord de la falaise.
Oui, avec des images stupéfiantes de cette prise d'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump, alors que le Congrès s'apprêtait à valider la victoire de Joe Biden. Saudia Dridi, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Washington. C'est une ville qui est encore sous le choc des incidents de la nuit dernière.
Oui, aujourd'hui, un calme précaire est revenu dans la capitale américaine, mais il y a une atmosphère quasi post-apocalyptique avec un centre-ville déserté, de nombreux détritus qui jonchent les rues aux abords du Congrès. Quelques pro-Trump se baladent encore autour du Capitole et avancent pour certains des théories du complot en disant que des antifas se sont déguisés en trumpistes et ont envahi le temple de la démocratie américaine pour semer le chaos. J'ai parlé à des Américains des deux bords, démocrates comme républicains, qui sont encore choqués et incrédules par rapport à ce mouvement d'insurrection qui s'est déroulée hier au Capitole. Un partisan de Trump m'a dit qu'il avait trouvé le spectacle affligeant et qu'il soutenait un peu moins aujourd'hui le président pour lequel il a voté 2 fois. Il m'a confié avoir trouvé que son discours devant ses partisans avait vraiment mis de l'huile sur le feu.
Et Sonia, d'ailleurs, suite à ces événements, l'entourage de Donald Trump lui-même se fissure de plus en plus.
Oui, il y a eu au moins 4 démissions hier à la Maison-Blanche, comme la chef de cabinet de la première dame, Melania Trump, ou encore le conseiller adjoint à la sécurité nationale. Les conseillers du président prennent leur distance, le chaos et la division règnent alors que Donald Trump doit rester encore 2 semaines au pouvoir. Des élus républicains et même des officiels de son administration évoquent la possibilité d'invoquer le 25e amendement. Cet amendement permet de démettre le président jugé inapte de ses fonctions. Dans ce cas-là, le vice-président devient alors le président par intérim. Il pourrait donc y avoir de nombreux rebondissements avant l'investiture de Joe Biden prévue le 20 janvier. Hier, dans un communiqué, Donald Trump, sous pression et de plus en plus isolé, a finalement promis une transition ordonnée.
Merci Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 à Washington.
En tout cas, ces images, elles ont fait le tour du monde sur les chaînes d'infos comme sur les réseaux sociaux. C'est en direct que la planète a assisté stupéfaite à l'invasion du Congrès des États-Unis par quelques centaines de manifestants surexcités.
Et pas n'importe lesquels, des partisans de Donald Trump, fait à blanc par le président sortant. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors cet épisode incroyable, vous nous dites qu'il aura de lourdes conséquences sur l'image des États-Unis à l'étranger.
Absolument. Un spectacle digne d'une république bananière. C'est le jugement sans appel porté par l'ancien président George W. Bush, qui est pourtant un pur républicain conservateur, mais qui estime que le comportement des partisans de Donald Trump la nuit dernière est tout simplement honteux dans une grande démocratie parlementaire. Jamais la colline du Capitole, siège de la représentation législative, n'avait été prise d'assaut au cours de l'histoire des États-Unis, si ce n'est en 1814, lors de l'incendie de Washington par les troupes britanniques qui tentaient de reconquérir leur ancienne colonie. Et voilà qu'une poignée d'Uber lui emmenée par un énergumène coiffé d'une tête de bison réussit à forcer un cordon de police tout à fait insignifiant et interrompt pendant plusieurs heures le processus de confirmation du président des États-Unis. Alors on croit rêver, et effectivement tous les régimes totalitaires ou autoritaires en ont profité pour faire les gorges chaudes en publiant des communiqués narquois. La Chine par exemple s'amuse de voir éclater les bulles que sont la démocratie et la liberté. Autre spécialiste, l'Iran voit dans ces incidents la preuve que la démocratie occidentale est fragile et vulnérable. Et pour la Russie, eh bien, la fête de la démocratie est terminée. Ce qu'ils oublient évidemment de souligner, c'est que si le système américain a bien été tourné en ridicule, il a néanmoins réussi à surmonter cette crise électorale.
On est quand même passé pas très loin de la catastrophe.
Absolument. La grande leçon de ces dernières semaines, c'est que le respect des règles constitutionnelles qui fondent le fonctionnement d'une société démocratique, eh bien, elles dépendent parfois de la rectitude morale de seulement quelques hommes, quelques élus républicains qui ont su résister aux fortes pressions de la Maison-Blanche pour remettre en cause les résultats des élections élections dans les États clés comme la Pennsylvanie ou la Géorgie, alors qu'ils avaient été plusieurs fois validés par les tribunaux, ou bien ce vice-président qui a refusé de récuser hier les grands électeurs et qui a finalement pris la décision de déployer la garde nationale pour sécuriser le Capitole. Alors certes, il s'est réveillé un peu tard, mais au moment fatidique, comme finalement beaucoup de conservateurs américains attachés aux acquis de la démocratie parlementaire, il n'a pas basculé du côté obscur du trumpisme.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Les États-Unis qui indiquent à l'instant qu'ils repoussent l'application des droits de douane sur les produits français emblématiques, comme le champagne, en représailles à la taxe française sur le numérique, hein, qui devait entrer théoriquement en vigueur hier et qui est donc repoussée. Il y aura bien un procès pour Karim Benzema. L'international français est renvoyé en correctionnel dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena.
Oui, l'attaquant du Real Madrid est soupçonné d'avoir incité son ex-coéquipier en équipe de France à payer des maîtres chanteurs qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime le mettant en scène.
Et ce soir, Karim Benzema dénonce une mascarade.
Des hommages sobres ont été rendus ce matin aux victimes des attaques de janvier 2015 à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher.
C'était il y a 6 ans et mi-décembre. On se souvient que la Cour d'assises spéciale de Paris avait condamné à des peines allant de 4 ans de prison à la perpétuité 13 personnes reconnues coupables d'avoir aidé les auteurs de ces attentats.
Et puis c'est un livre qui, avant sa sortie, a fait couler beaucoup d'encre. On en a parlé ici même et conduit le politologue Olivier Duhamel à démissionner de toutes ses fonctions après des accusations d'inceste sur son beau-fils.
La Familia Grande de Camille Kouchner est sortie aujourd'hui, tirée à 70 000 exemplaires. Et vous l'avez lu, Nicolas Caro.
Oui, et ça commence par l'enfance hors norme, avec un père très absent, occupé à sauver le monde, une mère impressionnante de culture, Evelyne Pizier, la sœur de l'actrice Marie-France Pizier. On est élevé dans le culte de la libération sociale et sexuelle, et puis les parents se séparent, et voilà le beau-père, intelligent, drôle, beau, les enfants l'adorent, il est très présent, on passe des vacances dans sa maison de Sanary avec toute la famille, et les amis qui forment la Familia Grande, on rigole tout le temps, on s'amuse, on parle politique, et rien n'est tabou. Mais un jour, Victor, le frère de Camille, lui révèle que son beau-père vient régulièrement dans sa chambre et qu'il abuse de lui. Ils ont 14 ans à l'époque, Camille voudrait parler, mais impossible. D'abord, son frère la supplie de ne jamais rien dire, et puis tout le monde fait ça, comme dit son beau-père. Mais le poison de la culpabilité la ronge. Un jour, il faut parler, ne serait-ce que pour protéger de nouvelles victimes potentielles. La mère, Evelyne, est informée, mais elle prend fait et cause pour son mari. L'entourage est au courant maintenant, mais tout le monde se tait, sauf Marie-France Pizier qui essaie de faire entendre raison à sa sœur et protège ses neveux. Elle meurt quelques temps plus tard. L'hypothèse du suicide a été envisagée. Le livre lui est dédié.
Nicolas Caro, spécialiste littérature d'Europe.
Et puis une bouffée de vent, du large et d'air pur pour terminer le journal. C'est vrai qu'on en a bien besoin. Des nouvelles du Vendée Globe et de son leader.
Yannick Bestaven qui engrange les 1000 et qui creuse encore la distance sur ses poursuivants, Corinne Boulou.
Oui, Yannick Bestaven a pris le pouvoir il y a 21 jours et après avoir contenu les assauts de Charlie Dalin jusqu'au Cap Horn, qu'il a été le premier à doubler samedi dernier, eh bien il est ce soir un solide leader à bord de son Imoca Maître Coq. Il a très bien négocié le premier piège anticyclonique de l'Atlantique Sud, alors que ses adversaires ont été ralentis, voire scotchés dans le petit temps au large des côtes argentines. De quoi avoir l'humeur chantante comme il y a 2 jours, écoutez.
Au revoir les albatros.
Voilà, Yannick Bestaven, impressionnant et très inspiré par Johnny en pleine remontée de l'Atlantique. En même temps, il y a de quoi être joyeux, hein, puisqu'au dernier pointage ce soir, le leader au large de l'Uruguay possède 439 nautiques d'avance, soit environ 800 km sur son premier poursuivant, Thomas Ruyant, lui-même talonné par Charlie Dalin. Le plus gros écart depuis le début de la course entre le premier et son dauphin. Pour autant, attention, hein, dans le week-end, une nouvelle bulle sans vent va sans doute provoquer un nouveau regroupement. Ce Vendée Globe, c'est décidément entretenir le suspense et ce sera le cas jusqu'à l'arrivée dans environ 3 semaines au Sable d'Olonne.
Et ce qui est bien, c'est que là où il est, Corinne Boulou, il peut chanter faux, il n'y a que les albatros qui lui en voudront. Merci Corinne.
Merci Isabelle, on vous retrouve demain à partir de 18h. Elle ne chante pas faux, elle chante très très juste d'ailleurs.
Oui, mais on va éviter.
Vous voulez pousser la chansonnette,
non,
ma chère Anissa ?
Non, ça va aller. La météo est...
Non, parce qu'il n'y a pas de pluie turbulent. Demain.
Il n'y a pas de pluie, vous voulez pas que j'en rajoute quand
non,
même.
Non, c'est vrai, il y a du froid et du verglas, c'est déjà pas mal. Ouais.
Attention, hein, demain matin, en tout début de journée, de nombreux nuages bas sur les 3/4 de la France. Seul le bassin méditerranéen est épargné. Et avec la généralisation des températures négatives, eh bien, ces brouillards pourront provoquer par endroits des plaques de verglas, notamment tout le long de la façade atlantique, sur les pays de la Loire et le centre. Donc attention aux glissades demain. Si vous prenez la route tôt, demain matin, dans l'après-midi, dans le nord-est, les nuages sont tenaces avec même des averses de pluie et neige mêlées. Au bord de la Manche, là aussi, nous avons un temps humide. Partout ailleurs, bonne nouvelle pour ce vendredi, le soleil va se montrer à nouveau et alors en plus il sera généreux, notamment sur l'Auvergne, sur la région parisienne, sur une grande partie de la France, nous aurons un très beau soleil. Au bord de la Méditerranée, il sera quelque peu voilé. Les températures ? Très froide demain, couvrez-vous. Moins 10 à 4 degrés le matin et moins 1 à 12 degrés l'après-midi. L'après-midi, ça ne bouge pas. Nous aurons 5 degrés sur Paris et 12 pour Ajaccio.
Merci ma chère Anissa.
Bonne soirée.
On vous retrouve demain, même lieu, même heure. Dans quelques secondes, le grand débat du Club des Idées avec nos invités. On va revenir en détail sur les changements attendus dans la stratégie de vaccination, notamment du gouvernement. La faute à la bureaucratie, pas si sûr. D'abord, la carte blanche signée ce soir Alexandre Malafaille.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, je vous dis, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Julien.
Entrepreneur, cofondateur du think tank Sinopia. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter une belle année.
Merci Julien, vous aussi.
Ça démarre bien 2021.
Ça va bien.
Pas si sûr avec la Covid. Non, je dis ça parce que je pensais que vous alliez nous remonter le moral. Eh ben patatras. Vous consacrez votre carte blanche, la première de l'année, aux conséquences de la crise sanitaire.
Oui, parce que je crois qu'en fait, on ne prend pas bien la mesure de toutes les conséquences de cette crise. Bien sûr, on tire les leçons économiques, les leçons sociales, politiques, elles sont guère réjouissantes. Bien sûr, on critique le gouvernement, l'administration, la stratégie vaccinale, l'Europe comme d'habitude. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus grave encore, c'est les leçons géopolitiques qu'on ne tire pas. Vous savez, Julien, le Covid, en fait, c'est une espèce de révélateur, en fait, un accélérateur des maladies de l'Occident. Oui. Un peu comme un patient qui a des comorbidités, bah, la maladie, malheureusement, le Covid a accéléré ses troubles. Voilà, notre système de santé qu'on croyait fort, il a été, notamment dans la première vague, il a été enfoncé. Les gouvernements ont montré qu'ils étaient quand même dépassés à courir toujours après la crise. Et puis, on voit ces mouvements massifs, voilà, de contestation partout en Occident. Hier, aux États-Unis, il y a quelques années, deux ans en France avec les Gilets jaunes, mais ça fleurit partout. Voilà, ça, c'est un vrai sujet.
Bon, bah, joyeux Noël, hein, je vous sens c'est bien ça. Sombre en ce début d'année.
Ouais, mais je crois qu'il faut être lucide, Julien. C'est-à-dire que je crois qu'en fait, il vaut mieux regarder la réalité en face pour se préparer, pour réagir. Le problème, en fait, c'est que la lenteur des conséquences profondes auxquelles je fais référence, en fait, à court terme, on ne les voit pas. Vous, moi, les gens, ils ne voient rien. Mais à long terme, les problèmes sont majeurs. On parle de questions de souveraineté, on parle d'indépendance, de notre monde, de notre vieux monde, de nos libertés, de toutes les libertés, et puis d'état de droit. Et ça, c'est profond et c'est très concret à terme.
Oui.
Alors il y a quelques jours, je voudrais vous donner un exemple. Le Figaro publiait un interview passionnant d'un acteur en géopolitique, un sud-coréen qui s'appelle Chung Min Lee. Et ce chercheur affirme des choses extrêmement intéressantes. Il dit « Avec la pandémie, nous débarrons une nouvelle ère de l'histoire mondiale. » Et il annonce la fin de l'hégémonie occidentale. C'est, dit-il, le changement le plus important depuis 500 ans.
C'est un peu fort tout de même, non ?
C'est un peu fort, mais pour l'instant, je pense quand même quelque part, il constate qu'en Occident et en particulier en Europe, on encaisse les coups, on subit la crise, on s'endette et on s'appauvrit collectivement. Pire encore, la peur de ce fichu virus, elle enrichit les plus forts et elle accroît leur domination sur les autres. Regardez la bourse, regardez les GAFA. Regardez aujourd'hui, le Dow Jones, il est 1000 points plus haut qu'il était au 1er janvier 2020. Tesla pèse 700 milliards, Apple 2100 milliards, Amazon 1600 milliards. Et puis surtout, il faut regarder en face l'Asie et la Chine, cette grande rivale. Un modèle autoritaire, un modèle qui marche et qui nous conteste notre propre modèle.
Oui.
Et quand 20% de l'humanité s'éveille, Julien, il faut se méfier. Et moi, je sens déjà les murs trembler.
Mais que faire alors ? Ne me dites pas que c'est perdu d'avance.
Alors, c'est surtout pas perdu d'avance, mais il faut se bouger. D'abord, il faut se bouger parce qu'en effet, l'Europe, pour l'instant, pour les deux prochaines années, on ne peut pas vraiment compter sur elle. La France est seule, l'Europe politique est en panne. Et puis, je crois qu'il est urgent de revenir à la normale et de prendre des risques pour cela. Quand on fait la guerre, il faut accepter le prix de la guerre. Le virus, c'est une chose, mais la géopolitique mondiale, c'en est une autre. Il ne faut pas la négliger. La clé, c'est qu'on retrouve au plus vite ce qui fait la force de l'Occident. Dans ce qu'il a fait jusque-là, notre génie, la liberté et ses corollaires, la créativité qui sont associées à ça, la fécondité des interactions humaines et nos modes de vie. Voilà, ça, c'est le rempart, c'est ce qui sera effectivement l'atout maître pour nous protéger des dominations, des régimes autoritaires, et Dieu sait qu'ils sont nombreux sur cette terre.
C'était la carte blanche d'Alexandre Malafaille. Merci. Mon cher Alexandre, vous êtes mis au vélo depuis qu'on s'est vu ou pas ?
Oui, vous pensez bien, oui. Je vous compte sur vous pour me former, pour m'entraîner.
Hop, on en parlera la prochaine fois. Merci mon cher Alexandre.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes, 19h17, on se retrouve pour le grand débat. On évoquera notamment la bureaucratie en accusation, peut-être un peu facilement face à la lenteur de la vaccination. Et puis plus globalement, on reviendra sur les annonces de Jean Castex, qui continue d'ailleurs en ce moment à répondre aux questions des journalistes. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h19 et ce soir dans le grand débat du Club des Idées, on va revenir ensemble avec nos invités sur les annonces du Premier ministre Jean Castex et notamment sur la question de la vaccination. C'est la clé d'une sortie de crise sanitaire le plus vite possible, on le sait, clé aussi de la relance économique et on en a besoin. Et il y a urgence, hein, disons-le, car les choses ne vont pas assez vite. Alors a-t-on commandé suffisamment de vaccins? Pourquoi la logistique ne suit pas? Faut-il en finir aussi avec la stratégie de vaccination ciblée, décidée par la Haute Autorité de Santé publique et l'élargir finalement à tous ceux qui le souhaitent? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, le docteur Martin Blachier, notamment médecin de santé publique et épidémiologiste. Bonsoir.
Bonsoir.
On en parle également avec notre consultant, le docteur que vous connaissez bien, vous, auditeur d'Europe 1, Jimmy Mohamed. Bonsoir, Jimmy.
Bonsoir, Julien. Bonsoir.
Et puis, François Bonneau va nous rejoindre dans quelques instants, vice-président des régions de France et président de la région Centre-Val de Loire, car c'est vrai que les régions, les élus peuvent jouer un rôle particulier dans cette affaire. Premier extrait d'abord de cette conférence de Jean Castex sur le constat, le comparatif de la situation française par rapport à nos voisins européens.
Au Royaume-Uni, le nombre de nouveaux cas explose depuis quelques semaines, avec un taux d'incidence près de 8 fois supérieur au nôtre, les poussant à un reconfinement total jusqu'en mars. La Suisse, qui avait été peu frappé par la première vague, a un taux d'incidence et un taux de mortalité deux fois supérieur au nôtre. L'Allemagne, qui a un taux de positivité des tests près de deux fois supérieur à la France, a dû se résoudre à un confinement pour casser cette courbe.
Alors voilà ce que dit Jean Castex, docteur Martin Blachier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, c'est factuel en même temps. C'est vrai que pour l'instant, on est plutôt en dessous des autres pays. Mais il y a certains épidémiologistes et médecins qui disent à l'inverse que nous avons deux mois de décalage, par exemple, avec l'Angleterre, qui a dépassé tout de même les 59 000 contaminations jour. Nous, on est à peu près à 25 000. Ça veut dire qu'on n'est plus tout à fait sur le palier. On commence à remonter. Est-ce qu'on va arriver au niveau de l'Angleterre dans 15 jours?
Ah non, c'est impossible de savoir exactement ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas à quel point le variant est présent en France et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il sera là. C'est sûr qu'il y a deux groupes de pays. En fait, il y a l'Europe et il y a l'Angleterre. Tous les pays d'Europe sont à peu près sur la même situation. C'est un plateau qui est toujours jugé trop haut. Oui. Et de l'autre côté, il y a l'Angleterre qui est en explosion épidémique complète, totalement perte de contrôle, avec une perte de contrôle qu'on attribue à ce variant qui serait beaucoup plus contagieux. Donc voilà. Mais le reste de l'Europe est à peu près dans la même situation.
Mais ça veut dire qu'on va être rattrapé inévitablement, docteur Jimmy Mohamed, par cette variante du virus qui vient d'ailleurs, on dit que ça vient d'Angleterre, mais on ne le sait pas du tout, parce que ça a été identifié aussi en Amérique du Sud, ça a été en Afrique du Sud, pardon, et on sait qu'il y a, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre tout à l'heure, 19 cas identifiés en France, dont deux clusters assez inquiétants en Bretagne et en Île-de-France, mais en vérité, ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus.
Alors, impossible de savoir s'il va devenir majoritaire, même si ce qui est plutôt inquiétant, c'est que ce variant serait apparu au mois de septembre en Angleterre, et donc il a mis 2 à 3 mois avant d'être majoritaire. Ce qui nous donnerait ces 2 à 3 mois d'avance sur eux. Et la question, c'est qu'allons-nous faire durant ces 2-3 mois? On va attendre, on va faire des tests PCR, des Anglais qui vont venir chez nous, on bloque les territoires. Mais est-ce que pour autant,
ça,
on va accélérer?
Le cas, hein. Le Premier ministre a rappelé que les frontières restaient fermées, a priori.
Pour autant, est-ce qu'on va accélérer le rythme de la vaccination? Il semblerait que non, et c'est tout là le problème. On a actuellement 1 million de vaccins disponibles. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est tellement mauvais qu'on a une marge de progression. Mais dire qu'on va attendre et voir, et si, oui. Attendre que le virus soit majoritaire, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va confiner. Ce sera la seule solution possible, puisque la vaccination sera trop tard,
oui, mais
pour bloquer la circulation.
Docteur, on ne pourra jamais arriver à un niveau de vaccination dans 3 semaines ou dans 1 mois qui nous permette de nous prémunir contre cette variante du virus. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Il faudra se confiner ou on arrivera à passer entre les gouttes?
On va devoir faire des techniques moyenâgeuses que sont désormais le confinement en 2021, alors qu'on a quelque chose d'extraordinaire, le vaccin. C'est une chance historique et j'ai l'impression qu'on ne le met pas assez en avant. On a une sortie de crise, que la lumière est au bout du tunnel, mais on a l'impression parfois qu'on va falloir temporiser. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'ici là? On va fermer les magasins, les libraires. Pour autant, on sait qu'on ne tombe pas malade dans ces endroits-là. C'est-à-dire que le confinement, cette technique archaïque, eh ben c'est peut-être ce qui nous pend au nez d'ici mars 2021. Et si mars 2021 arrive, peut-être qu'il sera encore pire que le mars 2020. Donc, je pense qu'il faut accélérer la cadence et on peut faire quelque chose tout de suite. Augmenter de 20% notre capacité de vaccination, c'est en prenant une dose supplémentaire du vaccin Pfizer. Chaque dose permet de vacciner 5 personnes. Alors, les Américains, Israël et les Italiens prennent une dose supplémentaire.
On va en parler de l'exemple israélien parce que c'est un cas d'école en la matière. Ils sont très en avance par rapport à nous, idem aux États-Unis, l'Allemagne, même si là-bas aussi, paradoxalement, ça fait débat. Ça ne va pas assez vite pour les Allemands. Ils ont quand même vacciné 350 000 personnes, donc c'est plutôt pas mal. Mais quand même, j'ai fait le calcul, pour arriver aux 14 millions de vacciner d'ici au début de l'été, il faudrait vacciner 150 000 par jour, dimanche compris et jour férié compris. C'est injouable.
Non, c'est pas injouable, c'est largement faisable.
Non, mais c'est injouable par rapport au temps qu'il nous reste avant l'arrivée de cette variante du virus qui va faire en sorte que la circulation sera beaucoup plus importante.
Vous faites la bonne réflexion, c'est pour ça d'ailleurs que je suis totalement en ligne avec ce que disait Arnaud Fontanet, c'est-à-dire que chaque personne qui est à risque de mourir du virus qu'on peut vacciner avant la diffusion de ce variant est une personne qu'on peut sauver. Donc en fait, dire qu'on a tout notre temps, comme un peu ce qu'a dit Jean Castex, c'est totalement faux. C'est-à-dire que les gens qu'on ne vaccine pas maintenant, quand la vague va arriver potentielle avec ce variant, c'est des gens qu'on n'aura pas protégés. Donc après, il faudra justifier en face de ces gens-là de ne pas les avoir vaccinés parce qu'on dit qu'on avait tout le temps. Et ce qui est particulièrement drôle, c'est qu'il a dit que maintenant il accélérait parce qu'enfin il avait confiance dans les vaccins. Mmh. C'est exactement ce qu'il a dit. Alors qu'en fait, il accélère parce qu'il s'est fait taper sur les doigts par le chef du gouvernement, enfin pas chef du gouvernement, mais Emmanuel Macron, et que du coup maintenant ils se mettent en condition de vraiment vacciner comme les autres pays.
Alors il y a un élément aussi dans les mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre Jean Castex, c'est, on le savait, hein, ça n'est pas vraiment une surprise, l'extension envisagée du couvre-feu pour 10 départements supplémentaires, toujours dans l'Est de la France. D'ailleurs, vous allez m'expliquer pourquoi ça concerne principalement l'Est de la France. On écoute Jean Castex.
Les derniers chiffres nous amènent à identifier 10 départements supplémentaires, plutôt situés dans l'Est de la France, où pourrait également se poser la question d'une mise en œuvre de ce couvre-feu avancé. Des décisions seront prises d'ici demain soir pour entrer en vigueur à compter de dimanche.
Voilà, vers de nouveaux départements soumis à un couvre-feu plus restrictif, donc 18h contre 20h au niveau national. Aujourd'hui, c'est le cas dans 15 départements de l'Est. Et parmi les 10 départements qui pourraient être concernés, il y a les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence, l'Allier, le Cher et la Côte d'Or. Moi, je voudrais comprendre à quoi ça sert, très concrètement, de baisser le couvre-feu de 2 heures. Est-ce que ça a un vrai impact, ça ? On a des chiffres là-dessus, des certitudes ?
Alors, pendant la deuxième vague, c'était un peu confus, puisqu'on a fermé les écoles, puis on a fait un confinement, puis on a changé, on a mis le couvre-feu, un coup 18h, un coup 20h. Ça a marché, mais on ne sait pas exactement quelle mesure a été efficace. Toujours est-il que l'épidémie repart, c'était prévisible. On avait un objectif de 5000 contaminations par jour. On est à 15 000, donc 3 fois plus. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Il y a peut-être plusieurs explications. La première, c'est la vague de froid. On sait que le virus peut se transmettre et est plus résistant lorsque le froid est présent. Peut-être qu'il y a un peu de lassitude.
J'insiste là-dessus parce que c'est un élément important. Le professeur Salomon l'a dit dans le JDD. C'est la première fois que c'est dit comme ça, et c'est le numéro 2 de la santé. Il a dit, Jérôme Salomon, il a dit, c'est avéré, ça y est, on le sait, que le climat, les températures et l'humidité notamment, a un impact sur la circulation du virus.
Ce qui veut donc dire que probablement les cas vont encore s'aggraver vu qu'on commence à connaître enfin une vague de froid. Et puis il y a ce spectre du variant anglais. Est-ce qu'il est déjà présent dans l'Est vu qu'on a quelques cas en Île-de-France ? On n'en sait strictement rien. Mais c'est-à-dire que la perspective des 2 mois à venir semble un peu compliquée et plutôt angoissante.
Vous êtes d'accord, Martin Blachier ? Parce que c'est vrai que quand on regarde la densité de l'Allier, par exemple, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent l'Allier, c'est Montluçon, par exemple, c'est des petites villes, des petites communes, il y a une densité très faible. Comment ça se fait que le virus, là-bas, circule autant ?
Non, mais c'est vrai que quand on regarde la carte de France et qu'on voit les taux d'incidence, il y a un tel gradient est-ouest que c'est un marqueur géographique. Et donc, c'est très probablement lié à la température et à l'humidité de l'air. Donc, en fait, les zones de l'Est sont défavorisées par un climat qui est sans doute plus continental qu'à l'ouest. Depuis le début, l'ouest est relativement protégé. Après, il y avait une autre hypothèse, c'est de dire que l'est, il y a plus de passages parce que les gens vont entre la France et les pays voisins. Oui. Je crois beaucoup moins à cette hypothèse. Je crois que c'est vraiment climatique.
Mais donc, pour reprendre ma question, d'abaisser le couvre-feu de 2 heures, très sincèrement, ça a un impact ?
Non, ce qui est assez ridicule.
Parce
en plus,
comme les bars sont fermés, les restaurants sont fermés, mais je vois pas bien la finalité.
D'autant que le couvre-feu a montré son efficacité quand les restaurants et les bars étaient encore ouverts. D'ailleurs, les bars et les restaurants étaient encore ouverts. On a installé le couvre-feu, ça a été efficace. Et après, on a tout fermé, on a confiné. Moi, je pense que c'est le télétravail qui est la clé. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on fait des couvre-feux qui passent de 20h à 18h, mais entre-temps, on a la ministre du Travail qui nous dit qu'il est temps de relâcher sur le télétravail. Je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est relâcher sur le télétravail maintenant.
Et puis, il y a une zone qui est encore obscure, c'est le rôle des écoles. Un coup oui, un coup non. Les Allemands, les Anglais ont compris qu'il fallait probablement les fermer, ils les ont fermés. En France, on comprend qu'il y a un double enjeu, la balance bénéfice-risque, de laisser les enfants à la maison avec la déscolarisation et les parents qui ne pourront pas aller travailler. Mais est-ce que ça va participer à la propagation de l'épidémie ? Là encore, on ne sait pas trop. Les enfants viennent de retourner à l'école, Donc verdict d'ici 15 jours à 3 semaines, même si d'ici quelques jours, on aura l'effet éventuellement du relâchement qu'on a pu avoir durant Noël et le 31.
Ah non, non, je vous le dis, moi, on ne ferme pas les écoles. Hein. Vous avez des enfants, vous aussi.
Ah, non, je ne veux surtout pas qu'on ferme les écoles.
Faire l'école à la maison,
non, mais en plus, là je m'inscris en faux là-dessus, parce que justement, ce que nous a appris le second confinement, c'est qu'en laissant les écoles ouvertes, on avait un confinement qui était aussi efficace que quand on les fermait. Donc, et toutes les données de la littérature montrent que les enfants participent beaucoup moins à la contamination, même si effectivement, avec ce nouveau variant, ils participeraient un petit peu plus.
Bien, merci écoles, tous les deux pour ces points de repère sur le constat. On continue évidemment la conversation et le débat dans quelques secondes, et on parlera de la stratégie vaccinale, comment améliorer les choses et aller plus vite, avec notamment le vice-président des régions de France, François Bonneau. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, on poursuit le grand débat du Club des Idées et on revient ensemble avec nos invités sur les annonces du Premier ministre Jean Castex. Et elles sont nombreuses. On pensait avoir un cap, une direction, et c'est vrai que ce soir, on est encore un peu dans le brouillard tout de même, disons-le clairement, et on va notamment s'intéresser sur la question de la vaccination. C'est vraiment la clé de sortie de crise sanitaire pour améliorer les choses et pour relancer aussi l'économie. On en parle avec le docteur Martin Blachier, médecin de santé publique et épidémiologiste, avec notre consultant toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, et avec François Bonneau qui nous a rejoint, vice-président des régions de France et président de la région Centre-Val de Loire. Bonsoir François Bonneau.
Bonsoir.
D'abord, peut-être un mot de réaction à cette conférence de Jean Castex. Vous a-t-il convaincu et rassuré ?
On perçoit très directement que aujourd'hui, le gouvernement est mobilisé pour limiter, réduire cette crise, mais sans avoir de visibilité sur sa sortie. Un certain nombre d'échéances sont à nouveau renvoyées vers l'avenir. On ne peut pas dire aujourd'hui que le cadre d'un déconfinement soit annoncé, parce que la réalité sanitaire ne le permet pas, ni que les évolutions en termes de confinement soient précisées. Ce qui est important pour nous, pour les régions, c'est, comme on l'avait fait pour le moment des masques, vous vous souvenez, ces achats de masques massifs qui ont été portés par les régions pour compléter l'action de l'État, eh bien c'est par rapport au vaccin, prendre véritablement notre responsabilité.
De quelle manière, François Bonneau, de quelle manière ? Parce qu'il y a Hervé Morin, il y a quelques jours, qui a fait la sensation en disant, président de la région Normandie, en disant, comme l'État ne s'occupe pas de nous et qu'on est un peu snobé par les hauts fonctionnaires, hein, c'est le mot qu'il a utilisé, ils nous prennent pour des ploucs. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré dans une interview. Eh bien, moi, je vais m'en occuper et je vais négocier directement avec les laboratoires pour avoir mes doses. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes prêt à faire la même chose ?
Les présidents de région demandent à pouvoir acquérir des vaccins. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme ça a été le cas sur les masques, nous pensons que l'action de l'État est aujourd'hui insuffisante, qu'il faut la compléter et qu'elle sera très certainement en situation de répondre imparfaitement à l'ensemble du territoire. Donc acquérir des vaccins, mais pourquoi et pour qui ? Acquérir des vaccins, pour, par exemple, quand on est une région, pour les lycéens, et dans une région comme la mienne, il y en a 100 000, eh bien pouvoir offrir aux lycéens qui le souhaitent une vaccination, ça me paraît essentiel, peut-être de même à leurs enseignants. Faire en sorte que, dans notre responsabilité de transport, on puisse assurer le transport à la demande des personnes qui sont éloignées des lieux de vaccination. Attendez, faire en sorte que nous puissions organiser avec l'État les instances et les lieux de vaccination.
On entend l'intention, François Bonneau, mais pour être tout à fait concret, ça veut dire que vous, les présidents de région, et peut-être vous, président de la région Centre-Val de Loire, vous allez directement appeler les dirigeants de Pfizer et BioNTech, de Moderna aux États-Unis, pour acheter des doses en direct, sans passer par les achats groupés européens.
Il y a des achats groupés européens qu'il faut faire. Manifestement, ils se révèlent arriver lentement et surtout être potentiellement insuffisants en nombre. Nous voulons les compléter. Quand on a acheté des masques, on n'a pas dit à l'État, arrêtez d'acheter des masques.
Donc la réponse est oui.
On a dit, nous apportons un complément. Il s'agit d'apporter un complément le plus vite possible, le mieux possible.
Donc la réponse est oui.
Et vous savez, les productions françaises, elles sont...
Vous allez rentrer en contact avec ces gens-là, avec les laboratoires directement.
Absolument, mais les laboratoires dont vous avez parlé ont des lieux de production, des lieux de conditionnement qui sont en France, dans ma région Centre-Val-de-Loire, à Mont en Touraine, à Saint-Rémy-sur-Avre, près de Dreux. J'ai deux laboratoires qui, pour l'un, vont conditionner, pour l'autre, vont fabriquer quelques dizaines de millions de vaccins. Donc, on n'ira pas forcément les chercher à l'autre bout de la, à l'autre bout du monde. On l'a bien vu aujourd'hui, la production des vaccins comme la production des médicaments est largement mondialisée, mais il y a heureusement un certain nombre de fabrication qui se font en Europe. Et donc, c'est en complément de l'État, le plus vite possible, plus près du territoire par rapport à des populations pour lesquelles nous avons des responsabilités particulières que nous voulons agir.
Alors, François Bonneau, vous restez évidemment avec nous parce que ce que vous dites est intéressant et que c'est vrai que je pense que le gouvernement a conscience maintenant qu'il aura besoin des élus locaux pour que tout ça fonctionne intelligemment. Docteur Jimmy Mohamed, ça pose une question fondamentale, ce que vient de dire le vice-président des régions de France et président de la région Centre-Val de Loire. C'est la stratégie vaccinale qui a été décidée par le gouvernement sur conseil de la haute autorité d'ailleurs de santé publique, c'est-à-dire une stratégie de vaccination ciblée. D'abord les résidents des EHPAD, ensuite les personnels soignants qui travaillent dans ces EHPAD, puis les personnes de plus de 75 ans. Aujourd'hui, c'est maintenant les pompiers, les aides à domicile. Est-ce qu'il fallait faire de cette manière-là ou est-ce qu'il fallait au contraire vacciner tout simplement les Français qui ont envie de se faire vacciner?
Non, et attention, dans cette course effrénée à la vaccination, c'est une bonne chose d'essayer d'avoir de nouvelles doses, mais quand j'entends qu'on va peut-être vacciner les lycéens, là, on va peut-être diluer tous nos efforts. La stratégie, c'est celle de vacciner les personnes qui risquent de mourir du Covid. C'est 15 millions de personnes en France et c'est elles qu'on doit protéger en priorité. Les lycéens, sauf
exception. Oui, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que la logistique ne suit pas.
Mais si vous avez 100 000 vaccins et que vous allez vacciner 100 000 lycéens, vous n'allez avoir aucun impact ni sur l'immunité collective, ni sur les hospitalisations. Et le deuxième temps, c'est l'immunité collective. Avoir 50 à 60% de personnes qui sont malades ou vaccinées. Et attention, avec le variant anglais qui va augmenter le R, le nombre de personnes que vous allez rendre malades, il est possible que l'immunité collective soit encore plus dure à atteindre. Donc la vaccination de masse, c'est pas pour tout de suite. Il faut protéger le plus rapidement possible les 15 millions de personnes qui peuvent décéder du Covid.
D'accord, pas d'accord, docteur Martin Blachier ?
Oui, moi je pense que c'est une bonne stratégie de vacciner d'abord les personnes les plus fragiles. Mais en fait, le problème...
Mais ça ne va pas assez vite, on est d'accord là-dessus.
Oui, mais ça ne va pas assez vite parce qu'il y a une très très mauvaise idée de vacciner en cabinet de médecine libérale. Le process n'était pas bon, c'est pour ça qu'il change. Ce qui m'amuse, c'est que cette polémique qu'on dit inutile, moi je pense que ça a été la polémique la plus utile du siècle. C'est-à-dire qu'en une semaine de polémique, on a réussi à faire en sorte que le gouvernement se mette en ordre de bataille pour enfin créer ces centres de vaccination qu'on n'avait pas, enfin décider qu'il fallait ouvrir la vaccination aux gens de plus de 75 ans et pas attendre qu'on ait vacciné tous les gens en EHPAD, et simplifier le processus avec le consentement. Donc on les a remis dans le droit chemin. Donc je pense que maintenant, on va être en capacité de vacciner les gens. Le facteur limitant, ce seront les doses. Tout ce qui pourra être fait pour avoir plus de doses et le plus rapidement vacciner ces 15 millions de Français vulnérables, le mieux ce sera.
Vous avez raison, parce que ça, c'est l'autre point clé. Vous savez ce qui se dit dans la coulisse du pouvoir et notamment à l'Élysée. Il se dit, attention, il ne faut pas qu'on accélère trop parce qu'on n'est pas outillé, on n'a pas suffisamment de vaccins. Si on a vacciné tout le monde et qu'on n'a plus de vaccins, deuxième polémique. C'est vrai qu'on a très très peu de vaccins.
Là,
quand
ce soir,
même.
On a un aveu justement du manque de vaccins. À demi-mot, lorsqu'on dit qu'on va augmenter le délai d'injection entre deux vaccins. Normalement, pour le vaccin de Pfizer, vous avez une première injection suivie d'un rappel au bout de 3 semaines. Là, on a dit qu'on va l'étendre à 6 semaines. Ça veut dire que nous manquons de vaccins. Donc oui, il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire, qu'on n'en a pas assez et qu'il faut aller plus vite.
Eh bien, on va l'écouter justement. C'est Olivier Véran, vous avez raison, docteur Jimmy Mohamed, qui a fait cet aveu tout à l'heure lors de la conférence de presse.
Les autorités sanitaires françaises viennent de valider un principe important, selon lequel il est possible, sans risque et sans perte d'efficacité, de différer la deuxième injection du vaccin Pfizer, ce qu'on appelle un rappel vaccinal, jusqu'à 6 semaines au lieu de 3. Cela nous permet de disposer de davantage de doses disponibles tout de suite.
Voilà, bon, c'est formidable parce qu'on dit tin, on est formidable, on a différé la piqûre entre les deux doses. La vérité, c'est ce que vous disiez, docteur Jimmy Hamel,
c'est parce
qu'on n'a pas suffisamment de vaccins. Peut-être une question purement sur l'efficacité. Ça fonctionne quand même, un vaccin, si on a un délai de 6 semaines au lieu de 3 semaines entre les deux piqûres?
On sait que la première dose immunise déjà beaucoup, parce que quand on regarde les courbes de l'essai, en particulier de l'essai Pfizer-BioNTech, on voit qu'elle s'écarte dès 7 jours après la première injection, donc très probablement que la première injection joue un rôle majeur et que le rappel joue un rôle moins important. Après, de savoir exactement l'effet de le mettre à 3 semaines de plus, je ne sais pas exactement. J'avoue que je n'ai pas les données.
Il y a des données justement à ce propos sur le vaccin Pfizer. Le laboratoire avance une efficacité à 10 jours de 50%. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, vous êtes protégé. Et elle augmente entre 15 et 21 jours à 90% dès la première injection. En revanche, sur le plus long terme, on ne sait pas exactement, mais c'est plutôt une source d'espoir.
Comment vous expliquez-vous, François Bonneau, vice-président des régions de France, comment vous expliquez cette incapacité de l'État stratège, et Dieu sait qu'il est important cet État stratège chez nous en France, à organiser cette vaccination de façon optimale ?
Il y a manifestement trop de défiance entre l'État, les administrations centrales et les territoires, les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, dans un moment de crise comme celui-ci, qui est un moment majeur pour le développement économique social, pour la protection de nos concitoyens, permet véritablement d'amplifier l'action de l'État. On n'est pas en opposition à l'action de l'État. Et donc, il y a une défiance qu'il faut absolument lever. À mon niveau, à l'échelle de la région Centre-Val-de-Loire, où la présence médicale n'est pas forcément facile à trouver. Moi, j'ai 20% de mes concitoyens qui n'ont pas de médecin référent. J'ai proposé, il y a 3 semaines, de participer à des actions qui soient régulières avec l'Agence régionale de santé pour coordonner, pour organiser les déplacements, etc., etc. Je n'ai pas de réponse.
Oui.
Donc on voit bien qu'il y a eu une défiance, qu'on n'a pas utilisé les synergies entre l'État, les capacités des territoires. Nous demandons avec force que toutes les collectivités soient mobilisées dans cette affaire. Les mairies avec leurs locaux, les régions avec leurs moyens de transport, les départements avec leurs responsabilités sociales. Ensemble, on peut apporter beaucoup à l'État. Ça n'est pas anti-État, mais on a un État trop centralisé dans ce pays, dans des moments comme ça.
Vous avez fait œuvre de force de proposition, j'allais dire, un peu comme la mairie de Paris et ce qui se passe ici en Île-de-France avec Valérie Pécresse, parce que ce qui est dit par la région Île-de-France et Valérie Pécresse notamment, ou encore à la mairie de Paris, c'est que ils ont fait œuvre de proposition pour être force de vaccination avec ce que vous dites, hein, des écoles, des lieux publics, des gymnases, des espèces de centres de vaccination qui appartiennent à la ville ou à la région, et on leur a répondu non, vous inquiétez pas, nous, les hauts fonctionnaires, on s'occupe de tout. Ça s'est passé un peu comme ça pour vous aussi, François Bonneau ?
Mais pour ce qui nous concerne, c'est le silence. Alors qu'on avait fait la preuve qu'en achetant 6 millions de masques, on avait permis aux hôpitaux d'en avoir dans des délais plus rapides, etc., etc. Moi, je ne comprends pas la défiance. Je ne comprends pas qu'à la main tendue, il ne soit pas répondu immédiatement. Banco, on y va ensemble. Il s'agit pour l'État de dire ça. Donc, il y a en effet, manifestement, de la part de ces hauts fonctionnaires, de ces dirigeants au niveau national, une incompréhension de ce qu'on peut faire dans une république moderne, dans une république volontaire. On est en situation de crise, c'est une priorité, on bosse ensemble enfin.
Oui. Docteur Martin Blachier.
Non, mais juste aussi pour que tout le monde comprenne bien, c'est-à-dire que la stratégie du gouvernement au début n'était pas de créer des centres de vaccination. Donc quand tous les élus locaux ont proposé des endroits pour faire des centres de vaccination, ils n'ont pas eu de réponse parce que le gouvernement ne voulait pas en faire. Et là, ils ont décidé en 48 heures de faire des centres de vaccination.
Oui, 300 dans quelques jours,
voilà,
500
ça,
à terme.
Ça, c'est une décision qui date de la colère d'Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça que jusqu'ici, c'est rien passé. Et donc maintenant, ils disent, on va demander effectivement aux élus locaux de nous proposer
des lieux.
Mais
vous diriez quoi là-dessus, sur la lourdeur de la bureaucratie? Vous dites, oui, c'est vrai, on est face à un millefeuille d'institutions, une espèce de fonctionnement en silo qui fait que il y a d'un côté Santé publique France, de l'autre côté les ARS, de l'autre côté les régions, enfin, ça fait beaucoup d'institutions.
Je ne suis pas un fan du millefeuille administratif français, mais je crois qu'il n'est pas du tout responsable de la situation. Je pense qu'il y a une erreur stratégique fondamentale qui a été de penser qu'on allait vacciner dans les cabinets de médecins généralistes. On n'a pas réfléchi que c'était impossible en termes logistiques. Et ensuite, on s'est dit, on va aller lentement parce que les gens, de toute façon, ne voudront pas aller vite et on n'a pas des doses suffisamment importantes. Oui. Donc voilà, c'est des deux erreurs stratégiques. Après, la bureaucratie ne s'est pas mise en mode avancé parce que on leur a pas donné l'ordre d'avancer. Alors, si on leur avait donné l'ordre, ils l'auraient fait.
Comment on fait maintenant pour accélérer les choses? On a vu que le gouvernement s'est mis en place et s'est mis en route et c'est tant mieux, mais pour peut-être commander plus de doses, parce que les commandes, ça se passe au niveau européen, si j'ai bien suivi Jimmy.
Exactement, et certains pays font mieux que nous, et systématiquement on regarde en bas au lieu de regarder au-dessus. L'exemple d'Israël est un exemple en la matière.
Mais ils négocient en direct.
Ils négocient en direct.
C'est Netanyahou, Premier ministre, qui négocie en direct avec les laboratoires. Mais ce qu'on peut pas faire, parce qu'on fait une négociation globale avec nos amis européens.
Et combien de temps ça va durer? On va rester encore pendant plusieurs mois confinés, les bars et les restaurants fermés, une faillite économique, une faillite sociale, les hôpitaux surchargés. Souvenez-vous de ce chiffre, on vous dit que 50% des malades en réanimation sont occupés justement par des places Covid. Oui. Ça ne veut pas dire que vous avez 50% de lits qui sont disponibles, les réanimations sont déjà saturées. Il y a donc urgence à aller plus vite, donc on a un espoir avec Moderna qui désormais est autorisé sur le marché européen. On espère en avoir de nouveau AstraZeneca d'ici quelques temps avec des modes de conservation plus faciles. Et tout l'enjeu est là, c'est de pouvoir acheminer les vaccins. Actuellement, c'est moins 80 degrés. Vous avez 5 jours pour vacciner les gens. Je pense que c'est faisable. Et il y a une petite chose qui a été dit aussi sur la vaccination contre la grippe. C'est vraiment la preuve de l'échec de notre logistique. En 24 heures, plus d'un million de personnes ont été vaccinées contre la grippe. Ça veut dire qu'on peut aller vite et qu'il faut aller plus vite.
Alors, je crois qu'on va recevoir 500 000 doses hebdomadaires du vaccin Pfizer-BioNTech, normalement, si tout va bien. 200 000 doses le premier mois, 500 000 le mois suivant aussi de l'américain Moderna. Alors, c'est pas mal, mais pardon, je reprends mon chiffre de tout à l'heure. Si on veut arriver aux 14 millions de personnes vaccinées et 150 à peu près personnes vaccinées chaque jour, on n'y est pas non plus. Là.
Non, le vrai game changer, ce sera le vaccin d'AstraZeneca qu'on pourra avoir en beaucoup plus grande quantité.
Qu'ont déjà les Anglais,
les Américains, les Brésiliens, les Indiens. Fin février, normalement.
Pourquoi en plus grande quantité, docteur ?
Parce qu'il est beaucoup plus facile à produire. En fait, ce n'est pas un vaccin ARN, il peut être produit en beaucoup plus grande quantité. Il y a des énormes hubs de production qui sont faits au Brésil, en Inde, aux États-Unis et aussi en Europe. Donc, il est tout à fait... Ils n'en ont pas parlé ce soir, mais si ce vaccin arrive à avoir l'autorisation, on aura beaucoup plus de doses fin février, on pourra vraiment accélérer sur la vaccination.
Et on a déjà des accords avec le laboratoire AstraZeneca pour des doses.
On en a acheté une certaine quantité, effectivement, ça fait partie des vaccins qu'on a achetés, et je sais par exemple qu'en Angleterre, ils vont accélérer essentiellement grâce à ce vaccin. Reste à savoir si ce vaccin est efficace sur le nouveau variant, ça on n'en sait rien.
Oui, d'autant plus que ce vaccin, si je dis pas de bêtises, il est un peu moins efficace que les deux autres, mais suffisamment malgré tout pour protéger correctement la population. Il coûte un peu moins cher, sa conservation est plus efficace, et puis il y a une chose qui a été dit, c'est qu'on va peut-être proposer des licences à d'autres industriels pharmaceutiques pour produire plus de vaccins sous une licence d'un opérateur pour essayer d'augmenter notre capacité. Ça prend du temps, mais c'est aussi une façon d'augmenter nos apports en vaccins. Oui.
François Bonneau, toujours avec nous, vice-président des régions de France et président de la région Centre-Val de Loire. Avec quel laboratoire vous imaginez, vous, de négocier pour obtenir des doses supplémentaires pour vos régions ?
Avec les laboratoires, notamment ceux qui ont des productions à l'échelle de notre région. Mais moi, je voudrais attirer votre attention sur un point qui, à mon avis, était insuffisamment précisé. Considérons que nous allons avoir les vaccins, on va tout faire pour ça, on va se battre, l'industrie va se mobiliser beaucoup plus, etc. Qui vaccine et comment on vaccine ? Dans une région où, comme vous le disiez tout à l'heure, l'essentiel devrait passer par le médecin de ville, on n'y parviendra pas. Il faut qu'on ait véritablement les médecins de ville, mais aussi sous surveillance médicale, des infirmières qui puissent vacciner, des pharmaciens qui puissent vacciner. C'est ça l'organisation massive, rapide sur les territoires. Il faut aussi que nous envisagions ça. Et quand on dit il faut se préparer, c'est se préparer bien évidemment à avoir les vaccins, c'est essentiel. C'est un grand projet industriel et l'État doit être mobilisé là-dessus. Nous l'accompagnerons, mais c'est aussi une organisation pour que les personnes puissent trouver des professionnels.
Mais vous conviendrez, François Bonneau, que c'est bien d'avoir le produit avant de savoir qui va l'injecter dans l'ordre des choses.
Si demain on a le produit et on fera tout pour l'avoir, mais qu'on n'a pas pensé En anticipant à l'organisation, on n'y parviendra pas. Mais j'ai des médecins qui me disent « Mais comment je vais faire ? Oui. Je vais quitter mes malades à l'hôpital pour aller vacciner ? Je laisserai mes malades ? Comment ça se passe ?» Et c'est vrai de la médecine de ville, tout pareil.
Les pharmaciens, on en a beaucoup parlé depuis quelques jours, docteur Jimmy Mohamed. Ils pourraient être appelés à vacciner demain dans les pharmacies, comme ça, rapidement. Comme on fait les tests aujourd'hui, d'ailleurs, PCR et puis...
Antigénique,
merci.
Alors, pour le vaccin Pfizer, ça semble compliqué. Le vaccin Moderna, lui, peut se conserver un mois à une température entre 2 et 8 degrés. Ça veut dire que l'ensemble des professionnels de santé pourraient vacciner. Et quand on parle de la nécessité d'avoir un médecin sur place, c'était pour pallier au risque d'allergie grave, puisque c'est ce qu'on craignait, c'est qu'il se passe une réaction allergique sévère. Or, si on regarde les chiffres, vous avez environ 11 réactions allergiques par million de personnes qui sont vaccinées. Est-ce qu'il faut alourdir autant les protocoles de santé ? Ça a été petit à petit allégé, mais la vraie question, c'est oui, permettre aux infirmières, aux pompiers, aux dentistes, aux pharmaciens de vacciner et peut-être même d'accélérer le rythme. Les Américains proposent de le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit une priorité nationale, qu'on accélère réellement la cadence pour enfin sortir de cette crise.
Mais on a le personnel pour faire ça, Martin Blachier, 24 heures sur 24 ?
Mais si jamais on met tout le personnel, tous ces personnels-là, on aura largement la capacité de le faire.
Mais qui ont déjà une utilité aujourd'hui dans la société.
On a 50 000 médecins généralistes, 100 000 professionnels libéraux en tout, 100 000 infirmières, 20 000 officines. Donc on a un tissu suffisamment nécessaire pour vacciner en masse.
C'est jouable.
Et tous les professionnels sont prêts à jouer le jeu. J'ai des collègues radiologues qui me disent sont prêts à mettre en suspens leur activité pour aller vacciner, pour enfin sortir de cette crise et retrouver une activité un peu normale.
Alors je voudrais qu'on vienne un instant pour terminer aux mesures annoncé parce que c'est important et ça concerne évidemment notre quotidien, annoncé tout à l'heure par Jean Castex concernant les lieux qui sont aujourd'hui fermés. On pense au cinéma, au théâtre, aux lieux de culture, aux restaurants, bien sûr, aux bars. et également aux stations de ski. Voici ce qu'il a déclaré en conférence de presse.
Toutes les activités, tous les établissements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois. Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement. Les conditions d'une reprise à compter de début février seront ainsi concertées avec les représentants de ces secteurs. Nous ferons également ce point de situation avec les restaurateurs, les propriétaires de bars et des salles de sport, pour qui, malheureusement, la perspective d'une réouverture en janvier n'est pas réaliste et sera d'ores et déjà reportée à minima jusqu'à mi-février.
Bien, ça vous paraît des mesures de bon sens, ça, docteur Martin Blachier ?
Oui, il y a deux choses dans ce qu'il vient de dire. Il faut comprendre qu'il distingue deux endroits. Il y a les salles de spectacle, les lieux de culture qui potentiellement, avec certains protocoles, pourront réouvrir. Et de l'autre côté, il dit par contre les grands lieux de contamination que sont les restaurants, les salles de sport et les bars. Honnêtement, n'y comptez pas tout de suite. Et je pense qu'il a vraiment fait la part des choses entre ces deux grandes familles de lieux recevant du public. Donc il y a peut-être un petit espoir pour les lieux de culture si jamais on trouve un moyen de le faire en limitant beaucoup le risque, un peu comme les petits commerces. Pour le reste des lieux qui sont connus pour des lieux de contamination,
ça veut dire un café au comptoir, pas avant mars. Non, mais on peut se dire les
pas
choses.
Pas avant la fin de la campagne de vaccination. Il faut, si jamais on reste sur la logique scientifique.
Mais on en a pour un an de la campagne de vaccination.
Non, la vaccination des gens qui risquent de finir à l'hôpital. Moi, l'immunité collective, je pense que c'est beaucoup trop loin comme objectif. Oui. Le premier objectif, c'est de vacciner les gens qui peuvent mourir de la Covid.
Docteur Jimmy Mohamed.
C'est vrai que c'est un peu vécu comme une punition que les cinémas soient fermés, les salles de spectacle, des lieux où on ne tombe pas malade car on est immobile, on parle très peu et on est masqué. En revanche, l'argument avancé, c'est de dire, regardez, nos autres pays européens ferment ces mêmes lieux. La seule question, c'est est-ce qu'on se tombe vraiment malade dans ces lieux ? La réponse, c'est plutôt non. Il y a même une expérience qui a été faite en Espagne, un concert où des gens ont été masqués, testés de façon antigénique, 500 personnes, aucun cas de coronavirus avéré. Ça veut donc dire qu'il est possible, avec des aménagements, de les réouvrir, puisque quand est-ce qu'on va le faire ? Une fois que dans 3, 4, 5 mois ?
Bon, on suivra ça évidemment, et vous avez vu qu'hier le professeur Delfrécy, patron du comité sanitaire, nous a un peu alerté sur des annonces qui pourraient être encore plus importantes la semaine prochaine. On suivra ça, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Merci à tous les trois, merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h51, on marque une pause et on se retrouve avec les archives d'Europe Soir. Ce soir, on vous racontera l'histoire secrète de la chute du gouvernement de Pol Pot. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h53 avec la suite du Club des Idées et les archives d'Europe Soir. Quand le passé éclaire l'actu, 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
Un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Rémi Botsaron.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, vous nous emmenez en janvier 79. Le 7 janvier 79, il y a 41 ans, jour pour jour, le jour qui marque la fin du régime des Khmers Rouges.
Oui, c'est le jour où l'armée vietnamienne entre au Cambodge. Une intervention qui va mettre fin à près de 4 ans de domination de Pol Pot sur son pays. La fin d'un génocide qui a fait près de 2 millions de victimes. Alors avant d'évoquer la chute de Pol Pot, je vous propose d'écouter un témoignage qui permet de bien rappeler ce qu'était le Cambodge des Khmers Rouges. Le témoignage d'un survivant, il s'appelle Yuk Chang. Il avait 14 ans quand il a été envoyé dans les champs avec sa famille. Il témoignait en 2006 sur Europe.
On travaillait 14 heures par jour. Parfois, on dormait sous la pluie car il n'y avait pas de toit et même pas de logement pour dormir pour ceux qui travaillaient dans les champs. Ils rêvaient toujours de manger, ils avaient, et moi aussi j'avais très faim. La nourriture est devenue un dieu. Manger, c'était tout. La nourriture pouvait nous conduire à tuer, à nous retourner contre nos parents. La nourriture, c'était l'arme des Khmers Rouges pour que l'on se détruise entre nous.
Les descriptions, on comprend bien l'horreur de ce régime qui s'est donc écroulé en janvier 79.
Oui, en fait, quand l'armée vietnamienne entre au Cambodge, elle progresse très facilement, comme explique à l'époque sur notre antenne l'écrivain et journaliste Jean Lartegui.
Pour le moment, les villes sont tombées, mais ces villes étaient déjà mortes. On a pris des villes fantômes, Phnom Penh, il y avait 10-12 000 habitants. Pol Pot, tous les autres, tous les chefs, se sont évanouis dans la forêt qui est leur refuge.
Mais alors, si Pol Pot disparaît, comme on vient de l'entendre, dans la forêt, qui prend le pouvoir à ce moment-là?
Alors, dans un premier temps, c'est un régime pro-vietnamien, mais il y en a un qui se prépare. C'est un personnage clé de l'histoire du Cambodge, c'est le prince Norodom Sihanouk. C'est lui, le chef de l'État, en 1975, quand les Khmers Rouges arrivent au pouvoir. Il a travaillé avec eux pendant un an, avant d'être écarté, puis de s'exiler en Chine. Alors, quand Pol Pot s'enfuit en 1979, lui a décidé à revenir. Il veut mettre en place une union nationale, une grande réconciliation, et il imagine même une porte de sortie pour Pol Pot, comme il explique sur Europe 1 en novembre 1979.
Je suggère à la Chine de donner le palais qu'elle met à ma disposition à l'heure actuelle, qui est un palais somptueux, qui comporte beaucoup de cuisiniers, capables de faire une excellente cuisine. Eh bien, M. Pol Pot pourrait me remplacer à Pékin en tant que réfugié, et moi j'irai, n'est-ce pas, à Phnom Penh.
Et Pol Pot n'ira pas à Pékin, il va poursuivre sa guérilla pendant encore des années et des années.
Et pourtant, Rémi, il y aura bien des tentatives de réconciliation.
Oui, il y aura même un cessez-le-feu signé à Paris en 1991. Il y aura aussi la défection d'un dirigeant historique des Khmers Rouges qui va finir par s'allier avec le pouvoir. Mais Pol Pot résiste toujours, comme l'explique en 1997 sur Europe 1, l'ancien Premier ministre du Cambodge, Sam Rainsy.
Au cours des derniers jours, la plus grande partie de ces soldats ont quitté Pol Pot, qui n'est plus entouré que de quelques centaines de fidèles.
Est-ce qu'on a une idée sur précisément ce qu'a vécu ce dernier quarteron à ses côtés?
C'est assez pitoyable. Ce sont des rustres brutaux. Je pense qu'ils vont se faire tuer jusqu'au dernier.
Et ce n'est qu'un an plus tard, en 1998, que Pol Pot meurt après avoir été arrêté par ses propres troupes. 19 ans donc après l'entrée des Vietnamiens au Cambodge, il finit brûlé sur un lit de pneus.
Le jour où, tous les soirs, les archives d'Europe Soir, c'est à 19h55 dans le 18-20. Merci Rémi pour ce récit.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57 dans un instant. Julien Pierce pour le rappel de l'info et puis la musique avec Émilie Mazoyer. Salut Émilie.
Salut Julien.
Qu'est-ce qu'on écoute ce soir?
Ah, ce soir on écoute et on parle et on revient sur un scandale de la musique qui s'est passé il y a un tout petit peu plus de 30 ans, en 1990, au moment de la gloire de Milli Vanilli. De singles vendus, 30 millions d'albums,
90.
Oui, ça
j'avais dit, ça sent bon la fin des années 80.
Exactement, ouais. Exactement. Et ce soir, donc, la moitié de Milli Vanilli, Fab Morvan, va venir nous voir pour nous raconter sa vision de l'histoire. Parce qu'il y avait eu plein de scandales, vous savez, Julien, on les accusait de chanter en playback, d'avoir été des arnaqueurs. Et évidemment, c'est toujours un petit peu moins simple que ça en a l'air. Alors, avant le biopic qui va arriver cette année, Fab Morvan vient nous raconter son histoire musicale dans Musique.
Waouh, interview vérité donc à suivre. Merci Émilie, on sera au rendez-vous à demain. Merci de votre fidélité. Demain, non, c'est Isabelle Millet qui prend le relais du 18-20, comme chaque vendredi désormais. Je vous souhaite une très belle soirée sur Europe 1. Merci encore de votre fidélité.